Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux du mardi 31 octobre, vivant, mortel, fragile, vulnérable, indécis, indécent, incandescent, vous qui rayonnez aujourd'hui, vous qui brûlez et qui demain serez cendre, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, est-ce un coup de l'automne, de la Toussaint, d'Halloween peut-être, ou de la vie simplement aujourd'hui ? Contrairement à ce que dit le poète, le soleil et la mort vont se regarder fixement. En tout cas, avec notre invitée Elisabeth Foucault, déléguée départementale de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, Olivier Horry et moi allons essayer d'éclairer les termes du débat. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie.
Bonjour Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour Elisabeth et bonjour à tous.
Et bonjour Marie.
Bonjour.
Puisque, vous le savez, avant tout ça, évidemment, il y a les infos. Juste un moment, pour être plus précise, c'est certes un coup de la vie, mais c'est aussi, cette émission a lieu à l'occasion de la 16e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, qui aura lieu ce jeudi, et dans un contexte particulier, on y reviendra bien sûr, puisque le président de la République et la première ministre ont annoncé la présentation, ici en décembre, d'un projet de loi sur la fin de vie qui remplacera celle existante, la loi Claeys-Leonetti de 2016. Nous allons en parler, mais avant, ce sont les infos de Marie.
Le soleil arrive, je vais vous raconter des histoires.
Oui.
Info cinéma. Donc à Tueil, salle Vesprade, ce soir mardi, 20h30, le film Le Livre des Solutions de Michel Gondry. Je raconte l'histoire un peu. Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution de tous ses problèmes. Mmh. 20h30 donc, mercredi, toujours au même endroit, c'est à 14h30, Oli et compagnie, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans.
Mmh. Olivier, tu iras
Pour Oli, j'aimerais bien, par contre j'ai vu le livre des solutions déjà, c'est bien.
Mmh. Et ben voilà. Oli, en plein cœur d'une ville grouillante, existe un havre de paix, c'est un petit parc, fermé et oublié, un véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C'est le pays d'Oli, le petit hibou, et lui et ses amis y vivent de grandes et petites aventures.
Donc c'est à voir à 14h30 à Tueil, la salle Vesprade.
Exact. Cinéma toujours au navire.
Décidément. Yes. Ça c'est pour les plus grands parce que je pense qu'il va y avoir à picoler, c'est ça?
T'as tapé le micro. Soirée vin et cinéma, donc demain 1er novembre à 18h, donc au navire. En avant-première, le documentaire Vigneronne de Guillaume Baudin. Petite histoire, tu connais ?
Non ? Simplement, rapidement, ça sera en présence d'Hélène Thibon, qui est la petite-fille de Gustave Thibon, le philosophe qui avait accueilli Simone Veil dans son domaine entre les deux guerres. Voilà.
Et ben voilà, Hélène Thibon du Mat de Libyan.
Très bon vin.
Le film documentaire, au travers d'un voyage au fil des saisons, que nous partons à la rencontre de véritables pionnières, des vigneronnes, qui travaillent au plus proche de la nature. Elles ont su percer le secret du monde du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. Mmh. Le film sera suivi d'une dégustation, et c'est en partenariat avec la Biocoop, les gâteaux bio.
Voilà. On t'a pas trop coupé dans tes...
Vous arrêtez pas, c'est infernal. Mm-hmm. Mais je continue quand même. Donc, fini le cinéma.
Donc ça, c'est mercredi à 18h et ensuite 19h20 à l'issue du film. Un petit coup à boire et on peut discuter avec les vigneronnes.
19h21.
Bon. Ensuite.
Ensuite, à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas. Jeudi 2 novembre 19h30, c'est la conférence gesticulée par Stéphanie Ripp, Le Mirage du Prince Charmant. La gesticulante aura à cœur de vous démontrer avec beaucoup d'authenticité et d'autodérision que nos façons de vivre en couple, la famille et la romance sont politiques. Voilà.
Ah, mais oui.
Et voilà. Participation au chapeau, auberge espagnole, c'est-à-dire vous apportez ce qui vous fait plaisir.
Jeudi 19h30 à la librairie du Tiers-Temps à Aubenas.
C'est ça. Vendredi 3 novembre, salle de la Bête du Champval à Saint-Paul-le-Jeune, dans le cadre du Festival des Contes Éclatés. À 19h, scène ouverte à toutes les paroles. Ensuite, repas. Et 21h, spectacle Jeanne pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. Et ouais. De et avec Nicole Choucroun.
Ah ben on va en parler justement.
Exact. Jeanne est coquette, endimanchée, acharnée de la joie, bavarde, insoumise et facétieuse. Jeanne aime manger des petits gâteaux et ne veut pas mourir. Sur scène, la comédienne ne veut plus jouer le rôle de la vieille dame. Pour cette raison, elle l'a mise en scène sur son lit de mort, en grande pompe, cierge et requiem. Elle pense avoir réussi à s'en débarrasser. Mais c'est sans compter sur l'énergie débordante de Jeanne qui se réveille et se lève. Ce sera ça.
Eh ben, et on en a fini ?
Non, il reste la musique.
Ce que j'allais dire, c'est une très belle transition pour notre sujet.
Ouais, c'était fait exprès, mais après, j'avais quand même la musique. Donc,
mais je t'en prie.
On diffère la transition ?
Bien ça sûr.
Info musique.
Gardez bien en tête cette précédente information. Hein.
Voilà.
Chers auditrices et auditeurs.
En grande pompe.
Oui, Marie.
Info musique. Jeudi 2 novembre, donc, au pas de côté à Mercuet, c'est la soirée bœuf. Rendez-vous à 18h30 avec vos instruments pour de l'improvisation tout terrain. Le cadre et la sono sont accueillants et le moment goulayant.
Oh.
Donc, le 2 novembre, pas de côté, 18h30.
Goulayant, comme le vin que vous aurez bu la veille.
Ah ben voilà,
mais
voilà.
Peut-être...
À consommer, non,
ah, avec beaucoup de modération.
Voilà, c'est ça. La dernière.
Mm-hmm. Ah, oui. T'as tapé le micro, Marie.
Ah ouais, désolé. Les Quinconces de Vals-les-Bains et Fréquence 7 vous offrent des places pour les spectacles Les Mamans du Congo et Robin. Une rencontre entre les berceuses Batou du Congo, le hip-hop et la house.
Ouais,
et ce
super.
Sera vendredi 3 novembre à 20h30, le spectacle, dans le cadre du festival Images et Paroles d'Afrique. Le mot de passe à envoyer à Fréquence 7 à l'adresse contact@fréquence7.net, c'est
Congo.
Yes.
Je répète, Congo. Donc vous nous envoyez un petit mail donc, à cette adresse, effectivement, contact@fréquence7.net. N'oubliez pas d'y mettre vos noms, prénoms, un numéro de téléphone surtout, puisque vous allez être contacté par les Quinconces de Vals-les-Bains qui vont effectivement vous confirmer ou vous infirmer votre venue.
Mmh. J'ai fini.
Bonne chance. Merci beaucoup, Marie. Donc ça, c'était vendredi, mais jeudi, peut-être que vous aurez autre chose à faire, parce que peut-être que jeudi, vous serez au cinéma Le Navire, et on en parle là tout de suite.
Salut !
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ?
Oui, ok.
Pas de soucis.
Okay.
On fait ça, comme tu veux.
Parfait.
Jonathan a vraiment du mal à en parler.
De tuer mamie ? Non, pas du tout. C'est illégal, pas vrai ? Comment vous allez faire ? Ça va se passer quand ?
Bientôt, mon grand.
Allons-y, Lily.
Oh, ça va ?
Oui, d'habitude, je ne prends pas ce genre de hache.
Anna, Chris, vous dormez ? Je vais bientôt mourir. Vous vous joignez à nous ? Ça devrait le faire.
Elle est fragile.
Peux-tu laisser maman profiter de ce week-end sans que tout tourne autour de ta personne, Anna ?
Toi, tu peux arrêter d'être une garce. C'est stupide de...
J'appellerai le 911 pour signaler une tentative de suicide.
Mais tu es sûre parce que elle a dit qu'elle était prête. Elle est prête, mais moi pas.
C'est le moment de le faire, pendant qu'elle est encore consciente de ce qui va se passer.
Tu n'as pas peur ?
Depuis qu'on a choisi une date, j'ai arrêté de penser à la mort et j'ai concentré toute mon énergie sur la vie.
Cet héritage devra être entièrement dépensé en coke et en pute.
Mais t'as quoi dans la tête ?
Quoi ?
Tu dois la laisser faire ce qu'elle veut. Je veux mieux la connaître et je veux qu'elle me connaisse moi.
Tu vas me donner un conseil pour la vie?
Le truc, c'est juste de se pointer et de faire de son mieux. Ah, cette merveille qu'est la vie!
Cette merveille qu'est la vie, prononcée par la voix française de Suzanne Sarandon dans le film Blackbird, qui sera projeté jeudi de à 18h30, à 19h30. Vous pouvez vous exprimer.
À 19h.
À 19h, merci, merci. Mais venez à 18h30 pour être sûr d'avoir la place. Mais ce sera à 19h. Merci Elisabeth. Elisabeth Foucault, déléguée départementale de la DMD, Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc qui est avec nous pour parler non pas que de ce film, mais du sujet que traite ce film Blackbird, donc qui sera projeté jeudi à l'occasion de la 16e journée pour le droit de mourir dans la dignité. Ce film, cette bande-annonce, vous me disiez hors antenne que vous n'aviez pas entendu ni vu ce film ni la bande-annonce. Est-ce que ça vous fait réagir ?
Ben je suis impatiente de voir ça parce que d'abord il y a des actrices extraordinaires, hein, Suzanne Sarandon et puis Kate Winslet en particulier, et puis que ça pose le problème de ce qui se passe dans l'entourage de celui qui décide de mourir dans la dignité. Alors il y a d'autres problèmes bien entendu qui se posent, mais là ce film-là va éclairer ce questionnement qu'il y a dans les familles au moment où on est confronté à la décision du malade.
Alors, on va...
Avec un petit décalage, c'est un film danois, c'est un remake d'un film danois, ce film, et donc un remake américain. Et effectivement, il y a un petit fossé, un hiatus, entre la famille européenne, française en particulier, la famille américaine, il y a un petit effort de traduction de la part du spectateur pour entendre la problématique de la fin de vie exposée à l'américaine pour la comprendre peut-être plus à l'européenne. C'est pas tout à fait les mêmes habitus, on va dire.
Ok, alors concentrons-nous, puisqu'on a finalement assez peu de temps pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, finalement, cette fin de vie. Concentrons-nous en France. Donc, jeudi a lieu la 16e journée mondiale pour les droits de mourir dans la dignité. On l'a dit dans un contexte bien particulier, puisque le président de la République et la Première ministre vont proposer un projet de loi fin décembre, au mois de décembre, qui va donc faire évoluer la loi existante sur lesquelles nous plaçons, la loi Claeys-Leonetti de 2016. Alors, pourquoi, en quoi fallait-il changer cette loi Claeys-Leonetti ?
Alors, la loi Claeys-Leonetti a constitué d'une certaine façon un progrès parce qu'elle a souligné deux points importants, à savoir le fait de faire des directives anticipées, et ça vaudrait la peine qu'on en parle davantage, et puis elle a souligné le rôle de la personne de confiance. Ça, c'était un progrès et on peut en reparler. Mais elle est insuffisante dans la mesure où elle laisse de côté pas mal de cas de malades qui sont atteints de maladies incurables, devant lesquelles la médecine a baissé les bras, qui ont des souffrances inapaisables et à qui on refuse une aide médicale à mourir que nous, on demande.
Que vous, Association pour le droit à mourir dans la dignité, qu'est-ce que cette association ? Qui êtes-vous ?
Alors, cette association a été fondée en 1980, ce qui veut dire que ça fait plus de 40 ans qu'on se bat pour obtenir ce droit, qui est un droit du citoyen, à notre avis. On a presque 77 000 membres en France, on est presque 500 en Ardèche, et on a deux missions. La première mission, c'est d'aider et d'écouter les gens qui sont en fin de vie. Et puis la deuxième, c'est de faire évoluer la loi de façon à ce qu'on puisse obtenir ce droit fondamental du citoyen qu'on n'a pas pour l'instant, parce que cette loi Claes-Leonetti, elle ne nous semble pas être une loi de liberté, ni une loi d'égalité, ni même une loi de fraternité.
Cette association, votre parole finalement s'inscrit dans un contexte ici en France où, semble-t-il, les Français semblent prêts justement à ce qu'il y ait une évolution. Il y a eu, il faut le rappeler, l'année dernière, de décembre 2022 les conclusions ont été données en mars 2023, une convention citoyenne sur la question. Quelles étaient les conclusions de cette convention citoyenne ?
Alors, il faut rappeler que cette convention citoyenne a été a réuni 180 personnes, 184
personnes,
oui, en comptant les absents. Donc, ces personnes-là ont réfléchi depuis décembre jusqu'en mars. Tout le monde a reconnu, a salué le travail extraordinaire qui a été fait par cette convention. Et les conclusions ont été celles auxquelles on s'attendait, parce que les sondages nous avaient déjà dit que plus de 90% des Français souhaitaient qu'il y ait un changement de la loi. Les conclusions, ça a été à 83%, on a considéré que la loi Claes-Leonetti ne répondait pas aux situations différentes de fin de vie. Et 74% ont demandé que l'aide active à mourir devienne un droit.
Alors, c'est à ce moment, je pense qu'il faut faire un petit point sur les termes. On utilise plusieurs mots. On parle d'aide active à mourir, vous venez de le dire. Aide active à mourir, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on place sous le nom de euthanasie ?
Il y a deux choses possibles sous ce nom-là. Il y a l'euthanasie ou le suicide assisté. Euthanasie... ça veut dire, en fait, si on regarde l'étymologie du mot, la bonne mort, la mort douce. Ça signifie que c'est un tiers, et nous on demande à ce que ce soit un tiers du corps médical, qui administre un produit létal à la personne en fin de vie. Le suicide assisté, c'est quelqu'un, un tiers, qui fournit au malade un produit létal, et c'est au malade lui-même de faire le geste pour abréger sa vie.
Cela pose en effet un problème de la capacité de la personne à elle-même s'auto-administrer ce médicament létal, ce pharmacone.
Absolument, et c'est pour ça que dans la nouvelle loi qu'on souhaite, on souhaite que les deux soit accessible, à savoir l'euthanasie ou le suicide assisté. Parce que si on ne prend que le suicide assisté, que certains soignants souhaitent, parce que ça les dégage de la nécessité de faire ce geste, si la loi ne choisit que ça, ça veut dire qu'on laisse de côté beaucoup de malades qui sont dans l'incapacité de faire le geste. Et là, ça ne serait plus une loi d'égalité.
Voilà, et c'est important qu'on clarifie comme ça les termes. Il faut savoir que la loi Claes-Leonetti insiste beaucoup sur les soins palliatifs, et c'est vrai que c'est encore une alternative, des soins palliatifs palliés à la douleur, etc. Mais il y a une hypocrisie un peu des politiques en France, dans la mesure où cet accès aux soins palliatifs est extrêmement complexe, voire impossible. Il faut savoir que je crois qu'il doit y avoir 21 départements en France qui sont sans un seul lit de soins palliatifs. Donc c'est là qu'on mesure l'urgence d'une décision en direction d'autres solutions.
Parce que, attention, les soins palliatifs, il ne s'agit pas forcément d'opposer l'un à l'autre.
Non, justement.
Bien
non.
Au contraire.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est surtout de renforcer les soins palliatifs, que ce soit, si j'ai bien compris, à l'hôpital ou même à domicile, parce qu'il y a une demande aussi pour pouvoir, chez soi, avoir ces derniers traitements. Rappelons succinctement ce que sont les soins palliatifs.
Alors, c'est un ensemble d'aides apportées à la personne en fin de vie, de façon à ce qu'elle meure dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire...
Ou qu'elle vive ses derniers instants dans les meilleures conditions.
Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye d'abolir la souffrance, ce qui n'est pas toujours possible. On va essayer aussi de lui apporter une aide spirituelle même, l'aider à affronter ses...
Une aide psychologique, spirituelle.
Exactement, et l'aider à aborder cette phase le mieux possible. Et effectivement, dans la loi qu'on demande, on demande aussi, il y a un volet très important sur les soins palliatifs. On demande à ce qu'ils soient développés. D'ailleurs, déjà, depuis juillet, grâce à la Convention citoyenne, il y a quelquelqu'un qui a été chargé de travailler sur un plan décennal. Et déjà, en 2024, on devrait voir apparaître une des unités de soins palliatifs dans les 20 départements qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est déjà un progrès.
20 départements qui n'avaient pas d'unité de soins palliatifs.
Exactement.
Oui, c'est donc c'est pour ça. C'est complètement affolant. Oui.
C'est pour ça que je disais que déjà la situation actuelle n'était pas, c'était pas l'égalité de la devise de la France, hein, totalement inégalitaire. Sans compter que ils sont pas répartis de façon égale non plus.
Évidemment.
C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus, par exemple, en Île-de-France pour rapporté à 100 000 habitants, on a beaucoup plus en Île-de-France que, par exemple, en Ardèche.
Évidemment.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, Association pour le droit de mourir dans la dignité, qu'est-ce que vous proposez pour cette proposition de loi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez?
Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un malade qui a un pronostic... de mort possible, qui est dans des souffrances inapaisables, qu'il considère inapaisables, qu'il puisse demander à ce qu'on l'aide médicalement à terminer sa vie. Voilà ce qu'on demande.
Dans un cadre bien particulier, dans un cadre...
Alors, il faut bien entendu que ça soit très encadré, comme ça l'est en Belgique depuis 20 ans, et où en Belgique, on ne constate pas qu'il y ait les dérives dont on nous menace constamment. Ça, c'est très organisé, y a des cadres légaux parfaitement mis en place, et nous, c'est ce modèle qui nous semble le meilleur.
D'accord, le modèle belgique. Oui, parce qu'il faut rappeler que certains États ont légalisé ou dépénalisé l'euthanasie.
On est quand même, on fait un peu figure de retardataire dans les pays qui nous entourent. La Belgique, ça fait depuis 2002, ils ont cette loi. Les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, ça a été voté récemment, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche. Donc nous, on est derrière.
C'est-à-dire qu'effectivement, on s'achemine vers un des aspects, à mon avis, importants de la question, qui est donc le consentement ou la volonté de la personne à finir sa vie, les solutions palliatives ayant été épuisées de son propre aveu. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est la question de la lucidité, de la clarté, n'est-ce pas, de cette volonté de la personne à en finir, et puis de la clarté également, de la lucidité de ses proches. Ce qui amène évidemment la question des directives anticipées, c'est-à-dire dans quelle mesure, et ça me paraît tout à fait important, dans quelle mesure chacun d'entre nous peut préparer son approche de cette situation qui est fréquente, où la situation étant ou devenant invivable, il faut, au-delà des soins palliatifs, envisager autre chose. Voilà. Alors, comment je peux m'assurer que tout cela sera fait dans un maximum de lucidité, de conscience, de confiance également, c'est ça la question. Et c'est les directives anticipées sont un début de réponse à ces questions-là.
Alors Olivier, vous avez parfaitement raison de souligner l'importance de ce point, c'est-à-dire que pour nous, mourir dans la dignité, c'est mourir en étant écouté dans ce qu'on souhaite pour sa fin de vie. Or, pour être écouté, encore faut-il avoir dit ce qu'on souhaite. Et parfois, on n'est même plus en état de dire. C'est pour cela qu'il y a la possibilité, depuis la loi Claeys-Leonetti, de remplir un document qu'on appelle les directives anticipées. Et vous pouvez en trouver un exemplaire tout à fait pratique à utiliser sur le site de l'ADMD, admd.net. Sur ce document, vous allez dire ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas pour votre fin de vie. Et vous allez aussi donner le nom d'une ou même de plusieurs, au cas où la première ne serait pas joignable tout de suite, d'une personne de confiance avec qui vous avez eu un entretien approfondi pour lui expliquer ce que vous souhaitez et ce que vous refusez.
Et qui sera à même de restituer votre parole.
Exactement, ça sera votre avocate d'une certaine façon. Elle portera votre parole auprès du corps médical si vous n'êtes plus en état de dire ce que vous souhaitez. Et la loi Claeys-Leonetti là est importante parce qu'elle dit que cette personne de confiance a priorité sur toutes les autres personnes qui entourent le malade. À savoir que si ce n'est pas un membre de votre famille à qui vous avez demandé d'être votre parole, c'est elle qui devra être écoutée en priorité.
C'est très important. Et effectivement, il faut bien insister sur ce point parce que les directives anticipées, finalement, jusqu'à présent, c'est un outil essentiel et pourtant qui est très peu utilisé. Je notais, moi, qu'il y avait seuls 15% des plus de 50 ans qui les ont rédigées. Ça veut dire que dans cette incertitude, eh bien, ce n'est plus forcément si le patient n'est plus après en mesure de dire ce qu'il souhaite, alors comment l'écouter ?
Alors nous, on demande effectivement qu'il y ait aussi une campagne nationale à la télévision, par exemple, pour faire connaître ces directives anticipées, parce que, comme vous le dites, il y a très peu de gens qui connaissent l'existence de ce document. Et une fois qu'on connaît ce document, il faut aussi arriver à le remplir. Et ça n'est pas si facile. Hein. Ça explique peut-être le pourcentage que vous nous donnez.
Mais c'est pour ça que vous nous disiez que sur le site de l'ADMD, le formulaire est, semble-t-il, plus simple que celui qui est proposé sur le site du gouvernement.
Oui, moi je conseille un autre document qui sera plus facile à remplir. Mais sachez que dans l'ADMD même, on a constaté qu'on avait seulement 27% d'adhérents qui avaient rédigé leur directive anticipée. Donc il ne suffit pas d'avoir le document, il faut aussi faire cette démarche qui n'est pas toujours simple parce que ça signifie qu'on se met dans la situation où on imagine sa fin de vie.
Quand on en a parlé hors antenne, j'ai trouvé touchant, honnête d'ailleurs de votre part, d'indiquer que même dans l'ADMD, les adhérents ne se sont pas forcément collés au remplissage de ces directives. Donc je crois qu'on est arrivé à un moment là à mettre le doigt sur la question. C'est pas facile effectivement d'anticiper justement ce moment-là de sa vie, quoi. Alors je sais pas si peut-être que la fête d'Halloween, de la Toussaint, le jour des morts, peut-être qui correspond à la journée donc du droit de mourir en dignité, c'est peut-être un moment entre les bonbons, les citrouilles, etc., se poser la question de sa mort.
Anticipation, oui, d'autant que, et ça c'est important je pense à rappeler, c'est-à-dire que dans le cadre justement de la légalisation ou la dépénalisation, d'ailleurs y a-t-il une différence ?
Dépénalisation, ça veut dire que vous ne serez pas poursuivi si vous avez aidé quelqu'un à faire ce geste létal. Par exemple, en lui procurant le médicament, c'est ce qui se passe en Suisse. En Suisse, c'est une dépénalisation, c'est-à-dire que les associations ne sont pas poursuivies par la loi à condition qu'elles aient pu prouver que le décès qu'elles ont aidé à accomplir, ça n'a pas été pour des raisons égoïstes, de profit par exemple, de l'entourage, etc.
Mais dans ce processus, là je voulais en venir, c'est que dans ce processus d'aide active à mourir, ce qui est très important aussi, c'est cette notion de répétition. Le malade peut à tout moment, jusqu'au dernier instant, finalement dire « eh bien non ». Je pensais il y a 2 semaines, il y a 2 jours, il y a 1 heure que je souhaitais mourir, mais finalement là, on me repose la question, et d'ailleurs, c'est le processus. Là, je ne veux plus, là, je ne me sens plus. Et donc, cette notion de répétition est importante, parce que sinon, effectivement, dans l'idée même d'anticiper ce qu'on souhaite pour la mort, c'est très lourd, c'est très fort.
Alors, ajoutons que ces directives anticipées peuvent être supprimées à tout moment, effectivement, ou modifiées. Et nous, on demande à ce qu'il y ait un fichier national de ces directives anticipées, de façon à ce que le corps médical puisse s'y référer immédiatement. Pour l'instant, il n'y a que la DMD qui tient un fichier de ce genre. Nous, on souhaiterait évidemment que ce soit quelque chose de plus officiel. Alors, anticiper, oui, c'est pas toujours facile, mais nous, on demande aussi, bien sûr, dans une prochaine loi, que la demande du malade soit une demande consciente et répétée. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs entrevues avec le médecin, qu'on ait la preuve que ce soit un véritable souhait. Et comme vous le dites, que jusqu'à la dernière seconde, cette demande puisse être annulée par le malade.
Sur la proposition de loi qui va être... sur le projet de loi, pardon, qui va être proposé au Conseil d'État d'abord en décembre, est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'il y a certaines choses dans cette proposition de loi qui, finalement, vous laissent à penser que ça ne va pas dans la bonne direction? Ou que ça va dans la bonne direction, je ne sais pas.
Alors, on n'a pas encore, évidemment, les textes sous les yeux. Hein. C'est le président de la République qui a ça sur son bureau, et il doit trancher un certain nombre de points. Ce qu'on sait, c'est que certaines associations des soins palliatifs souhaitent que le médecin lui-même ne fasse pas de gestes, et donc penche plutôt pour un suicide assisté, et confié à des associations, ou une solution comme ça se produit dans l'Oregon, aux États-Unis, où si on a un pronostic vital engagé dans les 6 mois, 2 médecins qui ont vu le malade lui donnent un produit létal, et à lui de faire le geste quand il le souhaite. Ça, nous, on le refuse absolument. D'abord, où est la fraternité dans cette façon d'envisager les choses? Ça nous semble très américain, c'est très individualiste. Le problème, alors, c'est qu'il y a, par exemple, 66% seulement de malades à qui on a confié ce médicament qui le prennent et qui meurent. Ce qui veut dire qu'il y a le tiers qui ne l'utilise pas. Soit qu'ils ont changé d'avis, soit qu'ils sont morts avant. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des médicaments létaux qui courent, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est comme les armes en vente libre. On ne veut pas ça. On veut pas ça, on veut qu'il y ait un encadrement médical, que ce soit sérieux, et que surtout on puisse aussi être assisté dans ce moment si important. Être assisté par un soignant.
Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites sur le tiers des personnes qui, ayant pourtant la solution létale, ne l'utilisent pas, c'est aussi pour souligner un point finalement assez important, peut-être psychologique, c'est que la possibilité de pouvoir être assisté activement dans sa mort, finalement, rassérène aussi les gens et peut-être n'éprouve pas le besoin aussi d'aller jusqu'au bout. Mais se dire, j'ai cette possibilité vraiment au cas où ce n'est plus supportable, ça permet aussi, même si on n'utilise pas, de rendre les gens plus sereins.
Bien sûr, ça, c'est une aide psychologique très forte. On se rend compte qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une issue possible, on affronte de façon plus courageuse les douleurs, les souffrances de la maladie.
Avant, le temps nous est un peu compté, mais une chose aussi qui me semble importante, c'est que vous parliez des soignants. Il me semble que si la possibilité de l'aide active à mourir est effective, ça n'oblige en rien les soignants de le faire. Enfin, ça. Il y a un droit aussi de... Quoi, c'est un droit de rétractation.
Ah ben, on demande une clause de conscience, bien entendu. Comme dans le droit à l'avortement, le soignant devrait, dans une loi prochaine, pouvoir dire « Non, moi, je ne souhaite pas faire ce geste ». En revanche, nous demandons, à ce moment-là, à ce que la loi lui demande d'adresser le malade à un de ses confrères qui, lui, est capable de répondre à la demande.
Dernier point que je voulais souligner, et puis vous me direz vous si on a d'autres sur lesquels vous voulez dire un mot. Actuellement, dans la loi Claeys-Leonetti, il y a une clause justement qui stipule que oui, il peut y avoir cette aide à mourir dans la mesure où le délai ou la maladie amène à la mort dans un délai court.
Oui, alors là, c'est là une des grandes limites de la loi Claeys-Leonetti, c'est que ça doit se situer dans... La mort doit arriver à un court terme. Court terme, quand on... C'est relativement vague, mais quand on essaie de préciser auprès des soignants, court terme, c'est que la mort doit arriver dans les heures qui viennent. C'est-à-dire que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est prévu dans la loi Claeys-Leonetti et que le malade doit pouvoir demander, en fait, elle ne peut se produire que si le malade est déjà entré dans la phase agonique. Et dans la mesure où les soignants ont parfois du mal à prédire que le décès va avoir lieu dans les heures qui viennent, eh bien, ils retardent au maximum l'application de cette sédation profonde et continue. Ce qui explique pourquoi la commission d'évaluation de cette loi Claeys-Leonetti qui s'est faite en mars 23 a montré qu'il y avait environ 0,9% de décès qui se produisaient avec cette sédation profonde et continue. Donc c'est très très peu appliqué parce que la loi est trop vague et en même temps exige... ce court terme, nous, dans une prochaine loi, on ne veut pas qu'il soit question de terme. C'est au malade lui-même, si on sait que sa maladie est incurable, qu'il a des souffrances inapaisables, c'est lui le malade qui connaît les limites de ses possibilités, de ses souffrances, et qui doit pouvoir être écouté.
Autonomie au malade, on en restera là. C'est à lui que le dernier mot, c'est lui qui doit avoir le dernier mot.
Permanence de l'ADMD au Palabre tous les lundis, tous les premiers lundis du mois de 14h à 16h.
Et puis on peut aussi contacter l'ADMD sur le Facebook de l'ADMD ici d'Ardèche.
Oui, on a une page Facebook ADMD-07 et là vous aurez toute l'actualité de ce qui se passe en Ardèche à propos de la fin de vie.
Et si vous voulez en discuter là très bientôt, eh bien rendez-vous jeudi au navire pour parler à l'issue du film qui sera projeté Blackbird. Merci beaucoup Elisabeth Foucault, merci beaucoup Olivier. Merci Sylvain d'avoir réalisé cette émission. Nous, on se retrouve jeudi pour une prochaine Onde Curieuse qui parlera de vie, pour le coup. À bientôt. Ciao.